gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va? Bien!
Tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu et à 22h, bah c'est l'heure de la causerie. Et ce soir, autour de la table, nous avons, alors pas directement à côté de la table, mais à la technique, nous avons Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons Jonathan.
Bonsoir.
Nous avons Fab.
Salut. Et Jean-Yves qui a lancé l'émission.
C'est ça, bonsoir. Et alors, bah avant d'attaquer nos sujets, un peu comme à notre habitude, on va filer les infos pour nous contacter. Donc, on a un mail. Si vous voulez nous joindre par mail, c'est à l'adresse suivante.
lacausericanu@gmail.com. Alors, lacausericanu en minuscule, tout attaché, et @gmail.com en minuscule aussi.
Voilà. Ok. Et on a aussi un blog où vous pouvez retrouver toutes les causeries passées et à venir, une fois qu'elles seront passées.
Elles seront.
Voilà. Et donc ça, c'est sur le blog qui est à l'adresse blogs.
Au pluriel.
Oui, c'est ça. radiocanu.org/lacauserie.
C'est ça. Ou alors vous allez sur radiocanu.org, les blogs des émissions, et vous cherchez la causerie dans la liste et vous allez nous trouver forcément.
C'est ça. Et on a aussi un espace sur un des réseaux sociaux qui appartient à Marc Z. Voilà. Voilà. Et on va attaquer tout doucement nos sujets. Et c'est Jonathan qui ouvre cette causerie et tu vas nous parler d'un youtubeur
et de plein de choses.
Ça n'a pas changé, il faut toujours parler dans le micro.
Alors, bonsoir amis auditeurs. Oui, ce soir je vous parle d'un youtubeur et tout a commencé par le fait que j'étais fatiguée, que je ne savais pas quoi faire, que je m'ennuyais quelque peu et que je voulais regarder des émissions culturelles sur internet. Mmh. Et oui, car c'est ce mot culturel qui est dominant dans cette chronique. Alors, pourquoi je voulais faire ça? Bah parce qu'aujourd'hui, nombreux sont les youtubeurs qui proposent d'aborder divers sujets variés, de manière technique et parfois humoristique, afin de donner aux gens, aux commandes mortelles, quelque chose à raconter d'intéressant en soirée. Voilà,
c'est
ça c'est
dit.
Fait.
On va juste rappeler qu'un youtubeur, c'est donc quelqu'un qui fait de la vidéo sur YouTube.
Sur YouTube, exactement.
De l'auto-vidéo, comme on dit. Je trouve ça débile, l'auto-vidéo.
Ou de la multivideo, des fois ils sont plusieurs. En effet, et puis surtout définir qu'est-ce que j'entends par culture. Alors, la culture, c'est tout ce qui nous construit, tout ce qui nous définit en tant qu'individu au sein d'une société. C'est-à-dire que les rites sont culturels, les croyances sont culturelles, les religions sont culturelles également. Toutes les constructions politiques sont culturelles, les modèles de pensée sont culturels, la bouffe est culturelle, le sexe est culturel. Tout ce qui nous construit, tout ce qui nous définit est culturel et donc n'est pas forcément, enfin même pas du tout inné, mais relève du domaine de l'acquis et relève en grande partie du milieu dans lequel on évolue.
Et en n'oubliant pas les arts au milieu de tout ça.
Arts qui sont également un moyen de transmettre toutes ces choses que l'on appelle la culture au sens large. Et donc, dans cette culture, il y a, dans cette notion de culture, il y a la notion d'apprentissage et de choses que l'on ne sait pas. Alors, que ce soit pour les raconter à ses amis en soirée ou simplement pour se satisfaire d'avoir appris quelque chose, hein, disons-le vulgairement, le fait de dormir moins con le soir, c'est une satisfaction en soi. Beaucoup de youtubeurs proposent donc ce type de petite série. Et donc là, j'aimerais aborder la question de comment on envisage la culture sur YouTube, sur Internet, par la vidéo. Donc, revenons à ce fameux youtubeur, Lynx de Sun, qui est-il ? Alors, il ne se cache pas, il s'appelle Alexis Brut, il a 27 ans, il est breton. En 2006, il fait sa première vidéo qui apparaît sur YouTube. Il atteint le million d'abonnés en 2015 et le premier point culture, qui est l'émission qu'il fait, dont je vais majoritairement parler, apparaît en 2009 sur le web.
Je peux juste te demander, genre un million d'abonnés. Enfin, moi, ça me semble juste énorme quand même.
Alors, c'est immense. D'ailleurs, c'est un youtubeur très connu.
Ok, même dans le monde de l'Internet, un million d'abonnés, c'est quand même énorme.
C'est énorme. D'accord. Un million d'abonnés, ça veut dire que vous êtes suivi par... Alors, c'est suivi, c'est pas un million de vues, hein. Million d'abonnés. Donc, vous êtes suivi par un million de personnes qui vont regarder régulièrement tout ce que vous faites. Et donc,
et
oui.
Et qui sont alertés.
Et qui sont alertés.
Vous mettez une nouvelle vidéo en ligne.
Exactement. Donc, ce type-là a une renommée Internet qui est très conséquente, qui est qui va dans le même type d'importance que Cyprien ou que d'autres, voilà, qui eux aussi atteignent le million d'abonnés, le dépassent souvent. Mais voilà, c'est quand même, c'est pas tous les youtubeurs qui atteignent ce nombre d'abonnés.
C'était vraiment ça, un peu qu'on s'imagine l'ordre de grandeur.
Et fait d'autant plus étonnant puisque ce youtubeur-là reste simple. Alors attendez, je m'explique. C'est que voilà, depuis qu'il a commencé son point culture, le média n'a pas vraiment changé de forme. Hein. Il n'y a pas eu de changement ni dans les vignettes ni dans l'apparence. Le format est resté fidèle à lui-même. Donc c'est là où c'est assez intéressant. C'est quelqu'un qui amène une émission qui va être une émission de vulgarisation humoristique de certains sujets dits culturels, donc qui l'abordent de manière documentée, donc assez précise, mais qui sont des vidéos qui sont toujours tout public, même quand les sujets sont les plus subversifs. Et donc, autre chose étonnante chez lui, c'est qu'il est très subversif aussi dans le choix de ses sujets. Donc, par exemple, il parle du porno, il parle des fantômes, il parle des chats, il parle des cryptides qui sont des créatures qui ont le potentiel d'exister, mais n'existent pas forcément. Alors, le cryptide, ça va, hein, du dodo qui a réellement existé, mais qui n'existe plus aujourd'hui, au yéti, l'homme des neiges, etc., jusqu'à la chauve-souris, les gargoyles, etc. Donc, voilà, et il aborde les choses avec une méthodologie qui est très littéraire, qui est très estudiantine, qui est un petit peu culturellement parlant conservatrice, puisque c'est trois parties à chaque fois. Mais c'est abordé d'une manière très simple, puisque c'est trois parties vraiment très bien construites, mais qui se terminent par un top 20. Donc le décalage, là, déjà, on sent le pied de nez à la méthodologie scolaire, à ce qu'on nous explique comme étant la base de la grande culture. Voilà. Et puis, ce sont des sujets qui sont abordés, qui sont souvent traités comme des sujets de second plan, on va dire par la doxa, par la morale générale, et qui sont là, sont réexpliqués de manière assez scientifique, pour que ça devienne des sujets de premier plan. Enfin, des sujets qui méritent une conversation comme d'autres. Alors moi, je suis assez fan de ce type d'émission, hein, de documentaire un petit peu historico-fantastique sur tout ce qui est un peu particulier, donc les vampires, les loups-garous, ces choses-là qui n'existent pas, mais bon, on se pose quand même la question quand même, parce que c'est drôle. Et donc, il y a un autre youtubeur qui fait des histoires bizarres, qui s'appelle Axolot. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus, mais juste pour expliquer le paradoxe que j'aimerais souligner, voilà, on a Lynx de Sun, qui est un type qui, bon, a dû faire des études littéraires, puisqu'il a une méthodologie, du moins, qui ressemble, mais qui aborde les choses avec simplicité, dans le but de faire rire avant tout, parce qu'il le précise lui-même, il dit « je ne suis pas forcément exhaustif, Je ne suis pas forcément technique non plus, donc si vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas. Mais le but avant tout, c'est d'amener de la culture pour faire rire, mmh. et pas pour enseigner.
Ce qui est déjà un bon truc, parce que souvent on amène la culture, enfin tout ce qui est culturel, avec énormément d'emphase.
Et justement,
un peu de lourdeur, quoi.
Comparé à Axolot, qui est donc un YouTuber que j'aime beaucoup aussi, j'ai beaucoup aimé suivre ses histoires bizarres, mais qui en effet amène ça avec une certaine emphase, qui n'a pas forcément le même type de construction carrée, mais qui est seul face à sa caméra, qui nous explique les choses avec des gestes de présentateur, quelque part une codification déjà de la manière dont il amène sa culture aux spectateurs, aux web spectateurs. Donc il y a déjà un premier paradoxe finalement dans la présentation YouTube, dans le fait d'amener les gens à connaître davantage de choses, c'est comment se positionner. Est-ce qu'on se positionne en disant, voilà, je viens dans l'idée de faire rire les gens, d'amener quelque chose, on ne sait jamais, ou est-ce que je viens dans l'idée d'amener quelque chose aux gens et de les faire rire, on ne sait jamais. C'est quand même assez important, d'autant que donc la culture est ce qui nous constitue tous, ce qui nous construit, etc. Mais c'est aussi un énorme moyen de pression, de lutte et de positionnement social. Quelqu'un qui est cultivé, quelqu'un qui a des connaissances, au-delà d'avoir des capacités techniques qui peuvent éventuellement l'aider, hein, à savoir faire du feu, c'est de la culture, c'est une capacité technique, c'est voilà.
Ça peut être pratique.
Ça peut être pratique, a aussi un ascendant sur le discours. Et socialement, dans nos pays développés, c'est très important d'avoir cette capacité-là à s'intégrer, à s'insérer dans n'importe quel milieu, grâce à la capacité qu'est le discours, le fait de communiquer. Et donc, plus on connaît de choses, plus on a un discours élevé, et plus on rentre dans une certaine élite de pensée.
Mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément intelligent, ça veut dire qu'on a des outils pour construire un discours qui paraît intelligent.
Tout à fait, et d'autant plus que ce n'est qu'une histoire de code, puisque c'est la création d'une élite qui fonctionne par ces codes de langage-là, par ces codes de communication-là. Et on s'aperçoit que sur YouTube et sur Internet, il y a aussi une élite qui se crée et qui se développe, et du coup, de cette manière-là, il y a les YouTubeurs qui présentent des jeux. J'avais déjà fait une chronique sur la question, donc présentent des jeux ou alors des tutos, des choses, et ceux qui essayent d'amener la culture aux gens. Et voilà, dans la démarche, parfois, on retrouve ce schéma d'élitisme qu'on trouve dans la société. Alors attention, comme dans cette critique, finalement, je vise beaucoup de gens que je regarde et que j'aime.
Et que t'apprécies, d'ailleurs.
J'apprécie, j'admire leur travail. Mais voilà, il faut bien se rendre compte que quelque part, tout dépend de la manière et de l'intention qu'on met dans ce qu'on fait. Parce que très rapidement, il peut se creuser un fossé entre le YouTube, excusez-moi du mot, mais des gens intelligents, avec des gros guillemets, de ceux qui ont une réflexion propre et attention, franchement, ils se font pas avoir partout et n'importe quoi.
Ceux qui leur vendent de la bonne rhétorique.
Oui, ou alors ceux qui les font rire, mais intelligemment quand même.
Ouais.
Voilà, donc où est-ce qu'on place l'intelligence, où est-ce qu'on place justement l'importance de la rhétorique par rapport au fond du discours, et puis toute cette génération de youtubeurs, toi tu fais juste rire, tu sers à rien, non, là Lynx de Sun dit, moi je suis là avant tout pour faire rire parce que je n'ai pas d'autre utilité. Et avec ce discours là avec le fait d'être tout public, parce que ça aussi c'est important, si on veut être subversif, on n'est pas forcément nécessairement obligé d'être agressif. Je pensais à un autre youtubeur que j'aime bien qui fait une émission qu'on m'explique cette merde, ou un nom qui ressemble à ses proches. Là, j'ai pas l'anagramme tout de suite en tête, ça m'énerve, mais qui est très violent dans ses propos. J'aime beaucoup, j'aime bien le trash, mais alors, en effet, lui, il est pas tout public du tout. Et donc, en effet, le fait d'être tout public, de pouvoir amener des sujets de manière humoristique, mais qui peuvent être des sujets important, le porno, c'est un vrai sujet social. C'est aussi quelqu'un qui est très féministe. À chaque fois qu'il va aborder un sujet sensible, le viol, la pornographie, la torture, il va préciser qu'à un moment donné, c'est aussi des moyens d'oppresser des minorités. Donc il va le relever dans chacune de ses vidéos et il laisse rien passer à la légère. Et une autre action que je trouve quand même très intéressante de la part de ce youtubeur, donc Lynx de Seine alias Alexis Brett, c'est qu'il a fait une vidéo en partenariat avec Amnesty International, et pendant le premier mois de diffusion, tout ce qui avait été récolté comme font par la vidéo, aller directement à Amnesty International.
C'est cool.
Donc il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas de oui à 50%, il n'y a pas de... Hein, non, là il a pris un engagement, il a tenu, il n'a pas donné une durée illimitée, hein, il sait qu'il fait son blé aussi avec ça, donc il faut qu'il mange. Mais voilà, il a vraiment donné de son temps et son fric. Et donc sur 3 mois de diffusion, on atteint les 1 400 000 vues, ce qui fait une somme inférieure ou égale à 1 000 euros pour Amnesty International. À sa mesure, ce mec-là s'est engagé et a fait quelque chose.
Non, mais c'est cool.
Avec son... Voilà. Alors après, la critique que je peux lui amener, c'est à force de vouloir être tout public, forcément, des fois, il est un petit peu fade. Voilà, il a des engagements, c'est visible, il les répète. Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas quels sont ses moyens, quel est son engagement personnel, lui, en tant qu'individu, mais il y a peut-être beaucoup d'autres œuvres pour lesquelles on peut s'engager. Donc c'est ça aussi, ça dépend aussi qu'est-ce qui compte pour chaque personne. Mais voilà, partant de ce principe-là, on n'est pas forcé d'être d'accord, on n'est pas forcé d'avoir les mêmes priorités, mais purée, ce mec-là s'est investi. Et a vraiment voilà, posé les bases d'un engagement de youtubeur par rapport à la culture, qui est donc une arme sociale, par rapport à l'humour, qui est aussi une arme sociale, et par rapport à un engagement politique qui est nécessaire. Voilà.
Bah, c'est cool. J'irai voir ce qu'il fait plus, j'en ai vu qu'un. Non, mais j'ai trouvé ça pas mal. Après, c'est... moi, la difficulté que j'ai avec YouTube ou autre, c'est... Il y en a maintenant, tu sens qu'ils font ça pour passer à la télé. C'est-à-dire, tu sens que c'est devenu un peu un tremplin pour être après repris par Canal+, C8, TF1, France 2, ce que tu veux. Et des fois, c'est un peu dommage parce que tu sens qu'il y a vraiment cette envie... de se faire connaître comme ça, plutôt que de prendre un nouveau média, parce que c'est un nouveau média, et d'en faire vraiment un vecteur un peu à côté de la télévision, quoi, comme la radio n'est pas la télévision, ou comme, vous voyez, enfin.
Mais finalement, ça, tu le retrouves, enfin, je pense que tu le retrouves déjà avec d'autres médias, genre, je prends un exemple pas loin. Genre, on fait de la radio. Ouais. Quand tu seras sur France Culture, tout ça. Je veux dire, tu vois, c'est un peu pareil, tu vois. Oh, je plaisante. Non, mais alors, je voulais rebondir sur cette, sur le fait de retrouver en fait certains traverses, on va appeler ça comme ça, ou de notions d'aborder la culture, certains un peu plus élitistes, etc., que d'autres. Finalement, je pense que c'est peut-être nous en fait qu'on doit peut-être remettre en question, c'est peut-être qu'on s'est trompé en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on pensait ou qu'on espérait en fait retrouver sur ce nouveau média quelque chose qui remettrait justement
d'horizontal.
Ouais, c'est ça, horizontal. Sauf qu'en fait, l'être humain, il est peut-être plus complexe que juste on change de support et donc on va changer nos individualités. Sauf que c'est
non,
pas...
mais en effet, ça se fait pas tous. C'est une question de parti pris. En fait, la plupart, si on laisse faire les choses et dériver, tout revient à des schémas qu'on connaît déjà. Des gens qui se font connaître par un média et qui arrivent sur un média de plus grande ampleur, etc. C'est un schéma qu'on connaît déjà. Après, en effet, c'est une question de parti pris. Pour défendre encore une fois mon links de sel, c'est que lui, justement, va contre un petit peu cette forme-là.
Et mais... c'est moi qui ai arrêté ma phrase trop tôt, c'est qu'en fait, justement, ce que j'aimais bien chez lui, c'est qu'on sent que c'est pas le gars qui fait ça pour un jour
pour
passer
sa carrière
à la télé. Non, c'est même pas ça, c'est que le format qu'il a pris n'est pas adaptable. C'est-à-dire que ça ne peut se faire que sur Internet.
D'accord.
Je pense pas que son format, la façon dont il fait les choses, pourrait se faire dans une émission de télé. Alors je vais balancer des noms, vas-y. Mais bon, je vais prendre le truc comme le Palma Show par exemple, qui maintenant est sur Canal+, ou je sais plus quoi. Eux, tu sentais dès le départ qu'en fait, quand ils faisaient leur truc sur YouTube, c'était formaté télé. C'est-à-dire qu'en fait, c'était adaptable, tu pouvais prendre le truc et le passer sur grand écran sans trop de problèmes. Et lui, justement, ce que j'ai apprécié, c'est que je me suis dit, mais ça, en fait, ça peut pas se faire à la télé.
Donc il est vraiment spécifique à ce média.
Et j'ai trouvé ça intéressant que justement il s'accroche à cette notion du média.
En effet, là, une petite minute parce que j'ai oublié d'en parler, mais en termes de format, il fait des vidéos qui font entre 20 minutes et 1 heure, donc c'est très irrégulier, où il n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'on voit très peu sa tête.
Okay.
Voilà, on la voit de temps en temps parce qu'il a fait d'autres types de vidéos, mais sur le point culture, il se met pas en avant. Au niveau physique et narcissique, en tout cas, il se met pas en avant. Il est accompagné d'un personnage imaginaire qui s'appelle Pectrum, qui veut dire médiateur. Donc il y a un triangle surmonté d'un point, le point culture. Et donc c'est, en effet, comme tu dis, Fab, c'est un format qui est très peu adaptable à autre chose que le média qu'il utilise déjà.
Ou alors vraiment adaptable sur une chaîne qui prendrait des risques, genre Arte ou autre, qui prendrait vraiment le risque de faire quelque chose de complètement décalé, quoi. Mais là, tel que c'est, il ne va pas être repris demain par Canal+, ou TF1, quoi, clairement.
Alors que sa popularité, elle est quand même... Ouais. Elle vaut un certain audimat.
Oui. Non, mais alors justement,
ah mais clairement, moi j'invite les gens à aller le voir.
Oui, c'est en faisant la prépa justement que je me suis rendu compte du fossé où moi j'ai à la rigueur avec ces médias-là. Et j'ai repensé effectivement aussi à South Park qui avait fait un épisode justement sur les youtubeurs en disant attention, ne dénigrons pas ce qui s'y fait. Alors moi, c'est pas du tout mon propos, je cherche pas du tout à dénigrer ce qui est fait. Mais c'est juste qu'effectivement, je me rends compte, moi, ce média, ça me parle moins. Mais par contre, oui, il n'y a pas lieu de dénigrer ce qui est fait, sauf quand ça doit l'être. Comme sur tous les médias. Mais effectivement, c'est cool que tu apportes cet éclairage-là sur un truc.
Tout est critiquable, mais pas le fait d'être sur Internet.
Ah, bah oui, oui.
C'est-à-dire, je veux dire, c'est idiot de dire bah, il fait de la télé, c'est pas bien, ou il fait d'Internet, c'est pas bien. Enfin, faut critiquer le contenu, quoi. Pas le, là où tu te trouves, c'est un peu débile.
C'est bien ça. Bon, ben, bah, on est OP.
Eh ben oui. Alors, du coup, chers auditeurs, parce que je suis humaine et que je remplis mon frigo, moi, demain, je me lève très, très tôt. Alors, je vous abandonne là avec une petite chanson de Damien Saez qui s'appelle Rock'n'Roll Star. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de Clara, Jean-Yves et de Fab. Bah,
merci. Eh ben, merci. Bon courage pour
demain. Bon courage à toi. Et on écoute la zik.
Oui.
Allez,
c'est
on
parti.
Y va.
C'est parti.
Je t'explique.
Et de retour, et toujours à l'écoute de la causerie sur Radio Canu. Et petit rappel, même si Jonathan l'a dit avant, c'était donc le titre de Damien XVI, Rock'n'Roll Star. Ah,
mais elle est partie se coucher, elle peut pas le
retenir. Bah oui, la pauvrette. Et ben c'est toi, Fab, qui continue. Tu vas nous parler.
Gros sous.
De gros sous.
Et de populisme.
C'est ça.
Ouais. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les populistes de gauche comme de droite nous font un énorme battage contre les migrants. Pour être très clair, c'est devenu un petit peu le truc à la mode. Alors, ça va des traditionnels d'extrême droite, hein, où quand même on n'est pas trop surpris de leur part, quand même, ça ne va pas jouer. La droite républicaine, là, enfin les républicains qui est en pleine campagne pour qui c'est qui aura le pompon pour être président. Donc là, c'est à qui tape le plus fort sur son migrant. Hein. Et puis, même à gauche, on commence à entendre des trucs du genre ils viennent voler le travail des bons Français, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est pas dit comme ça, c'est ils viennent voler le travail de l'ouvrier français, vous voyez, parce qu'on a d'autres mots à gauche pour dire la même chose qu'à l'extrême droite. Mais
oui, mais c'est bien de souligner les différences de vocabulaire.
Un mot un peu plus subtil, mais ça veut dire la même chose, et c'est un peu gerbant, on va dire, ce qui est, parce que c'est quand même extrêmement, extrêmement faux. Et surtout, il y a un argument qui revient, c'est que ça coûte très cher. Les migrants, ça coûte cher. Parce qu'il faut croire, hein, vous savez, dans notre société capitaliste, qu'il n'y a que l'argent qui compte. Hein. Donc les migrants, ça coûte cher. On n'arrête pas de nous le dire, à gauche comme à droite, les migrants, ça coûte cher. Alors, je me suis dit, tiens, je vais aller voir quand même deux voix très libérales, ce qu'elles en pensent. Parce qu'il y a des moments, il faut aller voir si les libéraux, ils disent, libéraux économiques, hein, s'ils disent qu'effectivement, ça coûte cher. Pas qu'on les croit, mais parce qu'au moins, on pourrait se dire, les gens qui nous le disent à droite, par exemple, ou à gauche, s'appuient sur des chiffres et choses qui ont été données par des instituts de libéraux assermentés. Alors, quand c'est comme ça, vous allez voir qui ? Vous allez voir le FMI et l'OCDE. Oui, parce que sinon, c'est pas marrant. C'est-à-dire que si vous allez voir que des petits instituts à 3 balles, genre l'Institut Montaigne, bon, c'est pas drôle. Alors que le FMI, c'est quand même le truc, ça gère l'économie mondiale. Hein,
mondiale, là-bas.
On rigole pas. Donc voilà, donc je suis allé voir. Et effectivement, j'ai trouvé, alors je me suis aidé aussi d'articles de journaux, hein, mais j'ai aussi trouvé, vous pouvez les trouver, les deux rapports du FMI et de l'OCDE sur les migrations. Alors c'est intéressant, parce que ces rapports, en fait, moi je m'attendais à trouver des trucs qui disaient qu'il fallait mettre des murs autour des frontières, rajouter des comment ils ont appelé ça maintenant, là, des gardes-frontières européens, qu'il fallait faire, et en fait pas du tout. Mais alors vraiment pas, là ça va peut-être vous surprendre, mais pas du tout. Le FMI, par exemple, souligne que l'immigration et l'émigration sont une chance pour l'économie mondiale. Et ils expliquent pourquoi, parce qu'ils disent par exemple que si les USA n'avaient pas eu un nombre de migrants qui étaient arrivés sur leur sol ces 50 dernières années, en fait les USA n'auraient pas la puissance économique qu'elles ont aujourd'hui, parce que tout simplement ils n'auraient pas eu la main d'œuvre suffisante pour faire tourner leur économie. Alors déjà, ça surprend un peu, parce que moi je m'attendais vraiment à avoir le même discours que ce qu'on a chez les républicains ultralibéraux qui nous disent, ou chez Dupont-Aignan, qui serait quand même dit très libéral lui aussi. Et en fait non, en fait le FMI lui il dit, non c'est une chance. Et alors il l'explique, ils disent en fait, c'est pareil pour l'Europe. L'Europe qui est un continent où globalement on ne fait quasiment plus d'enfants, à part la France qui est une légère exception et la Pologne, qui sont les deux pays qui sont un peu en exception par rapport au reste des autres pays. Mais les autres font en fait moins d'un enfant par femme, moins de deux enfants par femme. Donc c'est-à-dire qu'ils ne maintiennent pas leur population. Parce que oui, quand on est un couple, c'est deux. Donc si on fait un enfant, il faut avoir au moins deux pour maintenir la population. Donc du coup, ils expliquent que dans une situation comme ça, il n'y a qu'une seule solution pour contrer la perte d'enfants, enfin la perte de population, la perte démographique, c'est d'avoir des migrants qui arrivent. Parce que sinon, vous ne comblez pas cette perte et que donc, du coup, vous perdez votre place de leadership dans la course mondiale à l'économie. Je vous rappelle que je parle du FMI, donc je vous fais un petit peu de capitalisme. Là,
c'est ça.
Ça ne m'arrive pas souvent. Mais là, je suis obligé de parler comme eux. Alors, voilà. Donc, Christine Lagarde, elle a co-signé ce rapport, hein, parce que je rappelle qu'elle est présidente du FMI, donc elle a validé l'ensemble du rapport. Et d'ailleurs, il a été notamment discuté à Davos. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à Davos, la conclusion était de dire que les politiques migratoires qui étaient mises en place par l'Europe étaient un suicide économique pour l'Europe. Ouais, c'est intéressant quand même de voir que les grands de ce monde, c'est-à-dire ceux qui, comme on dit, hein, parce que moi je ne pense pas que ce soit très grand, mais on dit les gens qui ont des sous en fait, hein, les grands capitaines d'industrie, comme on disait à l'époque, et en fait, eux, ils trouvent que les politiques migratoires qui sont mises, et notamment dans les pays de l'Est en Europe, c'est une connerie, parce qu'en fait, eux, ils ont besoin de main-d'œuvre pour pouvoir faire tourner pas cher leur économie, hein, parce que c'est ça qu'il y a derrière, on va pas non plus se mentir, ce ne sont pas des philanthropes, hein, ils ont pas dit qu'ils allaient mettre le SMIC à 1 800 €, mais ils estiment que c'est quand même une chance. Et alors là, du coup, je suis allé voir le rapport de l'OCDE. Parce que l'OCDE, c'est plus économique et ça explique plus avec des chiffres pourquoi c'est vachement bien. Alors, vous allez voir le rapport de l'OCDE et là, l'OCDE vous dit, en fait, il y a une chose qu'on oublie systématiquement, c'est qu'en fait, un migrant, quand il arrive dans un pays, la première chose qu'il cherche, c'est du travail. Et en général, quand il a des papiers pour pouvoir travailler, il prend les emplois que ne veulent pas faire les autochtones. C'est-à-dire ceux qui, c'est comme c'est écrit comme ça dans le rapport autochtone. Mais autochtone, c'est habitant du pays. Ça, hein, donc voilà. Donc ils veulent pas faire par exemple, si un migrant arrive en France, il va prendre un boulot que les Français en général ne veulent pas faire. Voilà. Alors quand on dit ça, ça fait bondir. Et j'ai vu d'ailleurs des gens à l'extrême gauche qui disaient oui, c'est dégueulasse de dire que les Français veulent pas travailler. C'est pas ce que dit l'OCDE. Les fameux emplois dont on parle, c'est vraiment les emplois que personne ne veut faire. Je vais être très clair, c'est par exemple éboueur, égouttier, aide-soignant, aide-malade, aide à domicile, c'est tout ce qui est des trucs de ménage, les sociétés, machin. Il faut pas rêver, personne n'a envie de faire ça, et globalement, c'est pas des emplois sur lesquels on saute, et quand on y va, généralement, c'est qu'on est obligé. C'est-à-dire que, voilà. Parce que, oui, mesdames, messieurs, surtout à l'extrême gauche, tout le monde n'a pas fait Bac+5. Donc il y a des gens qui se retrouvent un peu coincés à devoir faire. Et des fois même, ils ont fait Bac+5, mais ils sont obligés de faire ces métiers-là, parce que c'est les seuls qu'on leur laisse. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est l'OCDE qui le souligne, qu'il y a des listes de métiers pour les gens qui arrivent et où on les oriente prioritairement. Parce que bien sûr, ça permet comme ça de combler les trous là où il y en a, et surtout que vous puissiez asseoir votre cul sur des chaises propres quand vous allez vous travailler dans votre petit bureau. Parce que généralement, la femme ou l'homme de ménage est passé à 4h30 du matin. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là qu'on oublie un petit peu. Mais l'OCDE dit, déjà rien que ça, ça permet de relancer l'économie. Parce que ces personnes, elles vont consommer. Parce qu'elles vont toucher, en général, à minima, le SMIC horaire. Et ça va leur permettre, en fait, de consommer. Et en réalité, l'OCDE a prouvé que, par exemple, pour la France, le coût de la migration en termes d'aide sociale, c'est en tout et pour tout 7 milliards d'euros. Alors là, j'entends déjà les gens de droite et les populistes de gauche sauter derrière leur poste et dire « Ouais, vous voyez, ça coûte cher hein, les migrants et tout ». Alors, on se rassoit et on se calme et on écoute ce que je vais dire. En réalité, oui, c'est 7 milliards d'euros. Je vous rappelle juste que les prestations sociales chaque année en France, c'est 250 milliards d'euros. Hein, donc voilà. Et puis, je vais vous rappeler quelque chose, c'est que ces prestations sociales, ce sont des cotisations qui les payent. Hein, et que les migrants, en fait, quand ils cotisent, ils rapportent eux 12,7 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, ils rapportent plus que ce qu'ils coûtent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, le gain pour la France, c'est 5 milliards et demi d'euros. Voilà. Donc, vous voyez, c'est là que l'OCDE dit c'est vachement cool, les migrants. Alors attention, l'OCDE, c'est des capitalistes, donc ils disent ça en se disant que c'est cool. On est d'accord qu'ils ont des salaires super bas hein, et que c'est pas normal et que les conditions de travail sont pas normales. Mais c'est que même les libéraux trouvent que c'est vachement bien. C'est-à-dire qu'eux, ils disent il faut pas fermer les frontières parce que si vous les fermez, en fait, vous enfermez les gens. Et c'est là que c'est problématique. C'est qu'on voit que tout le discours qu'on a aujourd'hui, il est purement dogmatique, en réalité. Il n'est pas du tout basé ni sur des faits économiques, ni sur des faits réels. Il est basé sur une peur et qu'on joue avec la peur des gens et qu'on a décidé qu'on allait prendre les migrants parce que ça fait peur et que voilà, ça marche.
Il faut toujours un bouc émissaire.
Mais ça n'a pas de logique. C'est ça qui est intéressant de voir. Je vais aller encore plus loin. C'est que l'OCDE nous signale dans son rapport que les migrants qui arrivent en France sont généralement des gens qui ont fait des études. Par exemple, savez-vous qu'aujourd'hui, les médecins qui étaient en Syrie, il y en a 80% qui sont aujourd'hui en dehors de la Syrie, qui sont partis, qui sont enfuis. Ce qui est tout à fait logique. Quand on est sous les bombes, généralement, on reste pas, même quand on est médecin. Parce qu'il y a des gens qui osent dire qu'ils auraient dû rester pour soigner les gens. Oui, alors là, voilà. On va pas rentrer dans cette polémique de merde, hein, mais voilà. Et donc, du coup, ils sont à l'extérieur. Mais ces gens-là, ces personnes-là qui arrivent là, elles sont diplômés. Et en réalité, il y a des hôpitaux qui sont très contents de les prendre pour les payer à coups de lance-pierre et pour qu'ils puissent soigner les gens ici. Parce que c'est ça, en fait, la problématique. C'est ce que dit l'OCDE. Un Français moyen, voilà, c'est ce que je vais reprendre les chiffres, un Français moyen a un coût estimé, oui, parce que dans l'OCDE, vous avez toujours un coût.
Tout est chiffré.
A un coût estimé de 40 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le coût que vous avez quand vous allez à l'école de vos 0 à vos 16 ans. Et après, si vous faites des études supérieures, ce coût va augmenter encore et encore. Donc, c'est un budget assez énorme pour un pays. Or, le migrant qui arrive et qui, lui, est déjà formé, c'est ce qu'ils appellent une opportunité économique. Parce qu'en fait, il vous a rien coûté. Oui. Il a été formé dans un pays à l'extérieur et vous allez utiliser ses compétences ici sans que vous ayez eu à payer. Vous voyez, c'est horrible le capitalisme, hein, je sais, moi je suis le premier à en être écœuré, mais c'est la démonstration parfaite que, en fait, en réalité, bah, les migrants, ça ne nous coûte rien. Alors, je vais finir sur deux chiffres, parce que quand même, ils sont intéressants. Le FMI rappelle que, par exemple, pour pouvoir loger les migrants, pour pouvoir loger entre 250 000 et 1 500 000 migrants en Europe, le budget maximal que cela représenterait, à condition qu'ils ne travaillent pas, c'est bien noté comme ça, c'est 500 millions à 1 milliard d'euros par an. Sur 28 pays, je vous rappelle l'Europe.
Pour toute l'Europe.
Pour toute l'Europe.
D'accord.
Donc c'est un budget qui est quand même assez léger.
Ridicule.
Pourquoi ? Parce que le FMI fait remarquer que ben, même eux, ils le disent, il y a des logements vides, donc on peut les remplir. Voyez. Même le FMI.
Même le FMI.
D'accord. Eh ben, c'est quand même les ultralibéraux vous disent, en fait, il y a des logements vides, c'est quand même grave. Par exemple, le FMI, ils invitent l'Espagne à recevoir beaucoup de migrants. Pour oui. remplir les fameux logements
vides. Tous les logements
vides. Voilà, et c'est, ils disent, bah oui, remplissez les logements, au moins, comme ça, ils ne vont pas partir en décrépitude et vous les gardez, alors que là, ils sont en train de s'abîmer. Vous voyez, c'est. Non, mais c'est toujours cynique, hein, attention, très clair. Donc, c'est entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an pour 27 pays, ce qui n'est quand même pas excessif. Je vais donner un autre chiffre, parce que quand même, celui-là, ce matin, on apprenait que l'État allait débloquer 1 milliard d'euros pour la candidature, la France seulement, hein, toute seule, allait débloquer 1 milliard d'euros pour la candidature de Paris 2024 pour les JO. Donc j'ai un peu l'impression que si on ne reçoit pas les migrants, c'est juste qu'on est des gros connards et qu'en fait on n'a pas trop envie de les recevoir, là, à la tête de l'État, hein, je parle. Et que ça sert bien, dans cette période, de bouc émissaire et à montrer du doigt. Voilà. Mais c'est la démonstration qu'il n'y a aucune preuve économique. Donc quand quelqu'un vous dira ça coûte cher, dites-lui, va voir le FMI et le FCDE, ils te diront le contraire.
C'est ça.
Plutôt que de prendre des trucs d'extrême gauche ou libertaire, où on ne vous croit pas et qu'on dit, mais non, ça c'est normal, c'est orienté. Ben là, c'est orienté par des libéraux. C'est quand même. Voilà.
C'est ça.
Voilà. Non, mais c'est, voilà, je trouve c'est dingue quand même qu'on ait, que ces chiffres-là existent, que personne n'en parle. Et ce que je trouve grave, c'est qu'aujourd'hui, c'est des chiffres que des associations essayent de mettre en avant pour dire que justement, si même des organismes comme ça parlent de cette façon-là, c'est vraiment qu'on est dans l'idéologie pure et qu'on se rapproche plus d'une idéologie fascisante au final que d'une réelle, difficulté économique quelconque qu'on nous met en avant en permanence. Et que c'est grave parce que du coup, on n'est plus sur le même degré. C'est quand on en reste que sur l'économique, c'est qu'on peut réellement avoir des problèmes économiques. Je pense à la Grèce qui est étouffée aujourd'hui et qui effectivement peut avoir des problèmes pour recevoir sur son sol plus de migrants parce qu'elle est vraiment étouffée. La France, c'est pas le cas. Donc voilà. Puis c'est juste qu'on est dans une autre idéologie qui s'appelle le racisme pur et une forme fascisante, quoi.
Bah oui, oui, les élections approchent.
Malheureusement.
C'est ça. On passe à la ZIC ?
Ouais,
allez,
c'est parti.
Allons-y.
Yeah,
Et vous êtes bien sur Radio Canu, et c'est La Causerie, dimanche 22-23h. Et on vient de s'écouter un titre de Acid Arab avec La Alpha. Et c'est vraiment bien, je vous invite vraiment à écouter Acid Arab. C'est chouette.
Oui.
Et donc Jean-Yves, tu voulais nous remettre une petite tranche de nucléaire.
Mais oui, évidemment. Alors, je vais vous parler en fait de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Waouh.
Ouais. En fait, ou comment le gouvernement s'apprête à faire durer en fait le nucléaire.
Ah bon, ça va mieux.
Oui, voilà, tu vois, il fallait que je parle un peu plus clairement. C'est en grosse partie construit sur un communiqué, on va dire, du réseau Sortir du Nucléaire. Voilà, je vous fais un petit retour autour de tout ça. Donc en 2012, hein, celui qui est aujourd'hui le président roi-président français, donc François Hollande, il avait promis de réduire la part du nucléaire. Et c'est donc aussi un objectif qui figure dans la loi de transition énergétique. 4 ans après, donc le 15 septembre, pour être un petit peu plus exact, la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, qui est censée décliner en fait cette loi, et elle a été publiée pour mise en consultation. Alors le truc qu'on peut voir, c'est que en fait, loin de proposer une vision pour la fermeture progressive des réacteurs, en fait, le volet offre d'énergie de ce texte montre en effet plutôt une volonté de perdurer en fait dans le nucléaire et de s'enfoncer toujours un peu plus dans cette mort nucléaire qui est notre énergie principale quand même encore en France.
Pour l'électricité, oui.
Pour l'électricité. Alors déjà, on peut prendre le cas de Fessenheim. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Fessenheim en Alsace, c'est la plus vieille normalement centrale nucléaire. Alors là, pareil, François Hollande, il avait dit « on va la fermer ». On va la fermer, c'était une promesse.
Il n'a pas dit quand.
Alors, d'abord, il avait dit que ce serait immédiat. Bon, finalement, ce serait en fin 2016. Bon, là, on est quand même bientôt fin 2016. Je crois que François Hollande, il ne doit peut-être pas être au courant que les jours avancent toutes les 24 heures. Donc, il faudrait peut-être le réveiller, lui dire, parce que jusqu'ici, il n'y a rien, en fait. Il n'y a absolument rien d'avancé. Et pourtant, enfin, comme le souligne le réseau Sortir du Nucléaire, c'est pas les raisons qui manquent entre effectivement l'âge de cette centrale nucléaire, la situation, la zone sismique et inondable, des incidents inquiétants qui sont passés sous silence, comme souvent dans le nucléaire, et aussi la découverte d'une grave anomalie de fabrication sur un composant essentiel du réacteur numéro 2, et c'était évidemment quelque chose qui a été dissimulé volontairement par Areva. Le nucléaire, c'est un peu comme l'armée, c'est la grande muette.
Ça vient de la même branche au départ.
C'est ça. Et donc, alors, sur le cas de Fessenheim, qu'est-ce que dit donc la PPE, cette programmation pluriannuelle de l'énergie ? Alors, il y est dit qu'un décret sera adopté dans l'année 2016 pour abroger l'autorisation d'exploitation de 2 réacteurs de la centrale alsacienne. Bon. Alors, il y a rien qui est précis sur quand ça aura lieu. Le texte se contente d'énoncer que la fermeture de 2 réacteurs interviendra au cours de la première période de la PPE dans le respect des prescriptions édictées par la SN. Alors, voilà.
Sachant que c'est une loi de pluriannuelle, si je me souviens bien, dans les lois pluriannuelles, les périodes, c'est 5 ans.
Alors, celle-ci, en fait.
C'est ça, hein.
Alors, celle-ci, il y est dit que c'est 2 périodes, en fait. Il y en a une qui va jusqu'en 2018.
D'accord.
Et donc, ce qui voudrait dire que.
On fermerait là dans les 2 ans.
On fermerait très rapidement. Ou alors, la deuxième partie, elle s'étend jusqu'en 2023. Ce qui n'est pas non plus. Dans des siècles. Hein. Et donc, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose de neuf. Donc moi, ce que je me disais, c'est que effectivement, il ne faut pas oublier que c'est une période électorale non plus.
Oui.
Que si l'arrêt de Fessenheim, selon moi, n'est pas réellement acté, signé, avant la prochaine échéance électorale, qui est dans pas très longtemps, En fait, Fessenheim ne sera pas arrêté parce qu'une chose est certaine, c'est qu'à droite, ils se sont quasiment toutes et tous engagés à ce que Fessenheim ne ferme pas.
Et puis on voit bien que la gauche, entre guillemets, le Parti Socialiste, avec des gens comme Arnaud Montebourg ou autres, sont des fans du nucléaire, quoi, je veux dire. Arnaud Montebourg a fait une grande sortie sur le nucléaire français qui est magnifiquement beau et qu'il faut préserver comme s'il parlait des châteaux de la Loire.
Ah bah évidemment, alors moi c'est un peu la réflexion que je me suis fait, est-ce que le réseau Sortir du Nucléaire a dit si la droite passait, à coup sûr ça passerait
pas. Pas que la droite quoi.
Mais, sauf que oui, mais je pense qu'il serait bien d'être un petit peu plus lucide, selon moi encore une fois, et de se dire qu'en fait là la gauche, selon moi la gauche ne fermera pas Fessenheim.
Non, clairement.
Parce que là, avant des élections, ça voudrait dire que dans les gros titres, ce sera fermeture, donc égal licenciement, donc égal chômage.
Ben ça, c'est faux.
Sauf que c'est faux, mais on
c'est totalement faux.
Mais les migrants aussi qui coûtent de l'argent, c'est faux. Non, mais pourtant, ça marche.
C'est l'occasion de, quand même de le dire, une centrale, quand on la ferme, les gens ne perdent pas leur boulot, parce qu'en fait, il faut 40 ans pour démanteler une centrale. Donc le temps que les choses se fassent, je peux vous dire, il y a du boulot pour tout le monde pendant des dizaines d'années. Hein,
c'est
donc,
ça, on a le temps de voir venir, mais bon. Donc voilà. Et alors après, je continue toujours encore sur cet article du réseau Sortir du Nucléaire, qui justement relevait que Hollande, il avait dit qu'il avait encore une fois promis. Mais alors qu'est-ce qu'il fait de promesses ? Mais comme disait un vieux qui est en train de mourir, les promesses n'engagent que celles et ceux qui y croient. Il s'appelait Jacques Chirac. Enfin, il s'appelle encore pour
si
l'instant.
Si tu nous écoutes.
Jaco. Et donc voilà, lui, il avait promis, donc Hollande avait promis de réduire la part du nucléaire de 75% à 50% d'ici 2025.
Ça, c'est facile à faire.
Alors, pour les plus optimistes, ça voulait dire qu'effectivement, ça allait se traduire par la fermeture de centrales nucléaires, en fait. Et en plus, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, elle-même s'était penchée sur cet objectif et avait mis en évidence le non-besoin de certains réacteurs, d'une vingtaine de réacteurs, d'ici 2025. Et même la Cour des comptes, un truc étatique, avait repris ce chiffre dans son rapport qui est sorti en février 2016. Et alors, que dit donc cette PPE autour de ces 50%-là ? Alors, si l'objectif de 50%, il est réaffirmé d'ici 2025, le gouvernement ne donne aucune concrétisation et l'adéquation semble donc très difficilement tenable.
Mais s'il ne donne pas d'adéquation, ça veut dire que ce n'est pas 50% par rapport aux besoins d'aujourd'hui ? C'est 50% de ce qui est consommé l'année où on le regarde.
C'est toute la...
C'est du foutage de gueule, parce que comme chaque année on augmente le besoin en énergie, et qu'en plus on va passer aux véhicules électriques, donc on va avoir un besoin en électricité
qui va augmenter,
automatiquement la part du nucléaire va baisser, entre guillemets, mais faussement en réalité.
Oui, parce que c'est la demande qui va
augmenter. Oui, c'est la demande qui augmentera, mais pas ce qui est fourni.
Oui. Donc, alors, le premier point qui est le bon point, on va dire, qui est relevé par le réseau Sortir du Nucléaire, c'est que pour la première fois, il y a une réduction qui est amorcée. Mais par contre, qui n'est absolument pas du tout en rapport avec la réalité, ou en tout cas avec un projet ambitieux, on va dire, de sortie nucléaire.
Je vais être un peu méchant, mais je trouve que le réseau Sortir du Nucléaire, là, ils sont vraiment aussi en période électorale. C'est-à-dire qu'ils caressent dans le sens du poil, et c'est un peu gênant parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose.
Je ne vais pas te mentir, c'est un peu aussi mon ressenti. La droite, quand elle passera, elle est méchante.
C'est un peu chiant.
Sauf qu'en fait, on s'est baladé par la gauche depuis 83 et que, en fait. Il faudrait en remettre un peu, je pense, des fois les.
Oui, il faudrait se rappeler qu'historiquement, la filière nucléaire, c'est le PCF quand même.
Ben
voilà,
oui.
Excusez-moi de le dire à l'antenne, mais c'est une réalité historique. Donc
ben
bon,
oui.
Voilà.
Mais oui. Et donc, pardon, on en revient à ces 50%. Alors, le texte, il dit la réduction de la production annuelle d'électricité d'origine nucléaire réalisée en 2023, dans 7 ans, se situe entre. La réduction, donc, se situe entre 10 terawatts. Watt-heure, sensiblement la production de Fessenheim, et 65 terawatt-heure. Il y a un peu un grand écart quand même dans tout ça.
Ouais, ça va,
donc ce qui revient à dire, encore une fois selon le réseau Sortir du Nucléaire, que au mieux en 2023, en fait, la production annuelle d'électricité nucléaire sera juste inférieure de 15% par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, et on est donc loin de ces 25% qu'on devrait enlever, quoi. Donc voilà, et alors je continue, à moins que tu avais une...
Non.
Et donc de plus, sur la fermeture de Fessenheim, le texte ne propose aucune vision programmatique pour atteindre ses objectifs, ni aucune mesure volontariste. Et pour cause, réaliser ces réductions de la production annuelle, il est prévu en fait de s'en remettre aux aléas. Alors, je vais expliquer.
C'est beau, ça.
Sont envisagés d'éventuels arrêts de réacteurs exigés par l'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire.
Ça veut dire qu'on va attendre qu'il soit à la limite de la rupture pour dire on le ferme, hein, clairement.
C'est ça, mais attends, c'est la suite qui est bon. Mais surtout, la baisse de la disponibilité des réacteurs nucléaires en raison des travaux de maintenance et des investissements de sûreté. Donc, en clair, lors de cette période, une réduction temporaire de la part du nucléaire pourrait bien avoir lieu, mais c'est juste en fait parce que ces centrales seraient provisoirement arrêtées pour être, on va dire, réparées un petit peu, pour prolonger leur durée, pas de vie, mais d'utilisation, parce qu'elles peuvent bien péter avant qu'on dise non. Donc voilà, donc le texte propose ainsi d'engager des investissements de sûreté et de préparation d'une première tranche de prolongation des centrales nucléaires au cours de la première période de la programmation, tout en conservant des flexibilités pour la deuxième période. Donc c'est quand même assez joli. Déjà, ce que j'aime, c'est lors d'une première tranche de prolongation.
C'est
quand
bon.
Un politique... ou même un patron ou quoi que ce soit, dit une première tranche,
c'est qu'il y en a une deuxième.
C'est
là.
Qu'il y en a une deuxième qui va
toujours.
Arriver. Donc ça veut dire que là, sûrement, ils vont envisager d'augmenter l'utilisation des centrales de 10 ans, mais il n'est sûrement pas
à exclure
qu'une deuxième prolongation de 10 ans pourrait bien avoir lieu. Donc voilà, il y en a encore pas mal, il y a encore pas mal d'autres choses. Je vous invite à aller sur le site du réseau Sortir du Nucléaire, où vraiment il y a tout ce texte avec quelques renvois aussi vers d'autres articles pour bien saisir tout l'enjeu autour du nucléaire. Et effectivement, peut-être qu'ici on va être un petit peu plus dur que ne pourrait l'être le réseau, mais ouais, en fait, le sortir nucléaire, je pense que c'est vraiment plus qu'une utilité. Enfin, je pense que c'est même, ce serait peut-être signe de notre intelligence en tant qu'être humain, peut-être, de se dire qu'on ne peut pas, miser sur une industrie de la mort, parce que le nucléaire, c'est la mort, en fait.
On va rappeler, c'est le Canu Info du jeudi d'il y a 15 jours, où il parlait du fût radioactif qui avait explosé. Alors, je crois que c'est aux États-Unis. Ça va coûter 2 milliards, en fait, de décontaminer. Et on estime qu'il y a des gens qui ont été irradié, bien sûr, on garde ça sous le coude, hein, parce qu'on veut surtout pas que les, enfin, sous le tapis plutôt. Voilà, c'est un fût, un seul.
C'est ça.
Donc je vous laisse imaginer
c'est
tout
ça.
Le reste, quoi.
Bah, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima, il y en a eu aux États-Unis. Enfin, vraiment, l'industrie du nucléaire est l'industrie de la mort. Par contre, il ne faut pas oublier que souvent l'industrie civile du nucléaire est liée dans un pays qui a la bombe nucléaire. Donc il ne faudrait surtout pas oublier ça, et quand on lutte contre le nucléaire, peut-être qu'il faudra réveiller un peu nos âmes antimilitaristes.
Tout à fait.
Et on appelle souvent une convergence des luttes, mais en fait quand on a une vision politique d'ensemble, en fait, on peut arriver à articuler toutes ces choses-là sans laisser un sous le tapis, justement, et mener toutes les batailles de front et communément.
Et je rajouterais que quand on met une centrale nucléaire dans un pays qui a quasiment pas d'eau, je vous rappelle que pour faire du nucléaire, il faut de l'eau, parce qu'il faut refroidir, c'est souvent que ce pays il a besoin d'avoir la bombe atomique plus que de l'électricité.
C'est ça.
C'est une remarque comme ça, et c'est pas valable que pour l'Iran.
Non.
Pour plein d'autres pays, vous regarderez la carte.
C'est ça. Et ben voilà, donc on va écouter un petit titre de musique.
We'll be right back.
retour dans La Causerie le dimanche 22-23 heures. Et Jean-Yves, on vient de s'écouter quoi ?
C'était un titre des KVB, avec le titre Lower Depth.
Ouais.
Enfin bon, je vous mettrai la playlist sur le blog et vous irez voir par vous-même parce que je suis très mauvais en anglais.
On est deux.
voilà. On continue et on termine par des brèves et on sera dans les temps. Et je crois que ça commence lundi déjà.
Bah, lundi 10, demain, avec comme toujours la permanence d'aide aux sans-papiers et aux aidants de sans-papiers qui se tient à La Lutine, 91 rue Montesquieu dans le 7e. Et c'est de 18h30 à 20h30.
C'est ça. Le second rendez-vous, là c'est un petit peu. C'est plus festif en fait, c'est le Cafeton, c'est le bar associatif et autogéré de la CNT qui réouvre. Alors l'idée c'est de se retrouver, de discuter aussi autour d'un peut-être un moment un peu moins stressant ou speed qu'une manif ou qu'une grève, mais que pour autant on ne doit pas cesser de discuter et que c'est souvent bien autour d'un petit verre. Donc ce sera tous les jeudis et ça commence donc ce jeudi 13 octobre à partir de 17h. Et pour rappel, la CNT c'est sur les pentes de la Croix-Rousse au 44 rue Burdeau, métro Croix-Paquet. Voilà. Et le rendez-vous suivant, c'est le même jour, c'est donc jeudi. Donc vous allez boire un verre à la CNT, ensuite vous pouvez traverser et vous allez à la MJC du Vieux-Lyon qui organise une soirée. Alors je pense pas qu'elle soit seule, c'est la soirée c'est Migrants qu'elle accueille. Donc c'est autour des initiatives collectives et individuelles d'accueil des migrants et migrantes. Donc il y aura la diffusion du film ou du documentaire qu'a réalisé Yolande Moreau qui s'appelle Nulle part en France, et ce sera suivi d'un débat échange, etc., sur les pratiques et tout ça, avec des militantes et des militants et militantes investis dans l'accueil de migrants, et c'est en partenariat avec l'association Singa. Et je rebondis pour dire que l'association Singa anime une émission en partie, alors je ne sais pas si c'est que l'association Singa, sur Radio Canu qui s'appelle Blabla Mix, qui a lieu tous les dimanches de
12h à 13h.
12h à 13h et qu'on vous conseille vivement. C'est une émission faite par les migrants, pour les migrants, mais pas que.
Voilà. Hein. Donc, pour les réfugiés. Le terme exact est ça.
Oui, pardon. Ouais. Et donc voilà, je crois que j'ai donné toutes les infos pour les rendez-vous. Et je voulais rappeler, ou on peut rappeler communément, on reçoit Georges la semaine prochaine.
Bah oui.
Enfin, normalement. Hein.
Normalement, c'est bon.
Normalement, à moins qu'il nous fasse un plan,
Normalement, c'est là, c'est le 16 octobre, c'est Georges. Et on peut déjà dire, parce qu'il nous l'a dit, donc on peut vous le dire, on va parler des grands de et des grands de l'astronomie au cours l'histoire.
C'est ça, celles et ceux qui ont contribué à faire avancer
ces
connaissances.
Qu'il y avait au-dessus de notre tête.
C'est ça.
Et que la Terre n'était pas plate et qu'il n'y avait pas un éléphant sous la Terre, tout ça.
Ah bon ?
Ouais.
Ah merde, et que tu l'as.
C'est sous terre, ça. C'est pas au même endroit.
D'accord. Bon. En tout cas, on va vous laisser là parce que nous, sinon, on va s'enfoncer dans nos conneries. Et qu'il est l'heure, il est 23h01 et que c'est très rare qu'on rende l'antenne aussi autant dans les temps.
Oui.
J'ai du mal à aligner les mots. Et donc, on vous souhaite une bonne soirée.
Oui, des
une
bisous
bonne nuit.
Et des bisous à toutes et à tous et bon courage pour cette semaine.
C'est ça.
Et voilà.
Voilà.
C'était un drôle de voilà. Il faudrait qu'on donne le titre de la fin et j'attendais que tu le donnes en fait.
Ah ouais, oui, pardon, excusez-moi, je. Pardon. On va se quitter sur un doux morceau. Il n'est pas que doux, mais il est très sympa. C'est du classique. C'est Gymnopédie numéro 1 d'Eric Satie. Et j'ai oublié de me noter qui était au piano pour interpréter ça.
Je le mettrai sur
le blog avec tout le reste.
Et s'il vous plaît, faites-nous des retours sur le blog. Écrivez des trucs.
Ouais.
Non, mais juste qu'on sache si ça vous plaît ce qu'on fait ou pas.
Chat, lapin, bisous.
Des trucs.
Ce que vous voulez. Ça. Allez, on fait un grand concours de celui qui mettra le mot le plus stupide sur le blog.
Non, on n'est pas obligé de tirer vers le bas tout le temps. Enfin bref, on va donc se quitter en classique et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et bon courage pour la semaine. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Salut.
Ciao.